RFI, toute l'actualité, Édouard Dupénouat.
À chose promise, chose due, plusieurs pays d'Europe font de nouveau entendre leur position sur la situation politique au Venezuela. Ils étaient 6 pays au moins à s'être mis d'accord sur cet ultimatum. Le président Nicolas Maduro avait jusqu'à hier soir pour annoncer la tenue d'une prochaine présidentielle. Il ne l'a pas fait. Il s'en tient à sa position d'un prochain scrutin législatif. Résultat, les déclarations tombent depuis plusieurs heures. On en parlait dans le journal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles tombent en ordre dispersé. Pour en parler avec nous, Patrick Martin-Grenier, bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, et vous êtes l'auteur notamment d'un livre au titre tout indiqué « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Alors on le disait, il y a 6 pays pour l'heure qui semblent sur la même ligne, qui semblent, en tout cas puisque chacun ne dit pas la même chose et on va y venir, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal et les Pays-Bas, et peut-être l'Autriche aussi qui a simplement annoncé qu'elle allait s'aligner sur cette position. Voilà, 7 pays sur 28, et l'Europe, l'UE, dans tout ça, quelle est sa position? Est-ce qu'elle a même une position officielle?
Ah oui, depuis hier, et depuis d'ailleurs pas mal de temps, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a clairement dit qu'il fallait reconnaître M. Guaido comme étant le président par intérim du Venezuela. Et donc, il y a une position effectivement du Conseil européen, il y a une position des principaux pays de l'Union européenne, et il est vrai que d'autres pays ne se sont pas encore prononcés, mais enfin, il y a une réunion, un groupe de contact avec l'Union européenne, et je pense que l'Union européenne va se réunir très rapidement avec les ministres des Affaires étrangères pour essayer de déterminer une position commune, même si certains autres pays n'ont pas encore fait part de leur position dans ce dossier sensible.
Alors pour l'instant, on est obligé de s'en tenir quand même à beaucoup de circonspection. Emmanuel Macron, sur Twitter, dans la matinée, a reconnu Juan Guaido comme président en charge. Les mêmes termes pour le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. L'Allemagne le reconnaît comme président par intérim. Et Londres dit encore quelque chose de légèrement différent. Le Royaume-Uni et ses alliés européens reconnaissent Juan Guaido comme président constitutionnel par intérim. Est-ce que cette différence de termes, diplomatiquement, elle est intéressante et est-ce qu'elle montre quand même un certain problème, certaines difficultés pour accorder les voix?
Oui, écoutez, de toute façon, il y a eu un progrès ces derniers temps, ces dernières heures, parce que vous savez que toute la presse, tout le monde parlait de M. Guaido comme étant le président autoproclamé du Venezuela. Or, M. Guaido est bien le président légitime par intérim, parce que qui a confisqué le pouvoir au cours de ces dernières années, notamment à l'occasion de la dernière élection présidentielle, c'est bien M. Nicolas Maduro qui a confisqué le pouvoir, qui a mis les militaires et il n'y a pas eu d'organisation démocratique, et le seul président démocratique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est M. Guaido qui est à la tête d'une assemblée légitime et au terme de la constitution du Venezuela, c'est bien M. Guaido, président de l'assemblée légitime, qui doit être en cas de vacance du pouvoir, président par intérim. Or, M. Maduro lui-même a fait élire une assemblée constituante qui est à sa botte et par conséquent, M. Maduro n'a aucune légitimité. Donc le fait qu'on dise qu'effectivement, M. Guaido est président constitutionnel, président par intérim, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, théoriquement, c'est lui qui doit diriger le pays et non pas M. Maduro. Et donc le fait de dire que c'est un président constitutionnel ou par un président par intérim, pour moi c'est un peu la même chose, dès lors qu'il tire de la constitution du Venezuela, qui est tout de même une constitution démocratique, son pouvoir, c'est lui qui, dans les faits, doit aujourd'hui diriger le pays. Et je pense que ces différences sémantiques, pour l'heure, ne sont pas très importantes. C'est bien M. Guaido qui a la légitimité désormais pour diriger le pays.
Alors schématiquement, on a l'impression que les gros poissons européens, si vous me passez l'expression, ont pris position, ou en tout cas qu'ils sont sur la même ligne. Il manque tout de même l'Italie et la Belgique, si je ne m'abuse. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fait, ces deux pays n'ont pas fait entendre leur voix?
Parce que vous savez que l'Italie, pour l'instant, est dans une situation politique assez difficile. M. Salvini, lui-même, a finalement des positions plus proches de la Russie, de Vladimir Poutine, qu'une position solidaire vis-à-vis de l'Union européenne. Donc je pense que M. Salvini est dans une démarche politique. Et vous savez que c'est quand même lui qui, globalement, dirige le gouvernement, même si il y a un président du Conseil en titre. Donc là, l'Italie est dans une posture qui est une posture, en termes de politique étrangère, qui n'est pas évidente, qui n'est plus solidaire de l'Union européenne, qui est plus proche de la Russie. Et comme vous savez, la Russie soutient encore M. Maduro. Quant à la Belgique, on verra bien ce qu'il en est. Ils sont pour l'instant en crise gouvernementale. Je pense que de façon générale, ce pays devrait quand même se rallier à l'Europe et aux grands pays européens concernant le Venezuela.
Il y avait tout de même au début de cette crise des capitales qui soutenait au moins ouvertement Nicolas Maduro, au moins de façon implicite, la Grèce notamment. Alors notre correspondant à Bruxelles nous disait dans le journal que ces capitales qui avaient une voix dissonante ne l'ont pas fait entendre depuis la fin de cet ultimatum, et qu'on pouvait quand même y voir un signe d'union. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où les plus grands pays de l'Union européenne, donc le Royaume-Uni, la France, également l'Espagne désormais, parce que l'Espagne, vous savez, il y a une forte communauté vénézuélienne également en Espagne, et d'autres pays ont décidé de se rallier à M. Guaido. Je pense que qu'il s'agisse de la Grèce, qu'il s'agisse de la Belgique, ces pays en effet qui n'ont pas fait entendre leur voix depuis quelques heures vont finalement, je pense, se rallier. Ils attendent la réunion internationale, d'une part le groupe de coordination et puis une éventuelle réunion au niveau de Bruxelles. Et par ailleurs, vous savez que le groupe de Lima se réunit tout à l'heure à Ottawa avec le Canada. Et donc, la communauté internationale se rallie, enfin, en tout cas, la communauté internationale démocratique, les pays démocratiques se rallient manifestement, M. Guaido. Donc, il va y avoir un effet d'entraînement. Et je pense que l'Union européenne va finir par avoir une position tout à fait cohérente sur le sujet.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de retard à l'allumage? On a l'impression que les États-Unis sont en train de prendre la tête de l'action internationale. Il y a cette aide humanitaire à hauteur de 20 millions de dollars, Donald Trump qui n'exclut pas d'envoyer des militaires. Est-ce que l'Europe risque de se retrouver à la traîne dans une action coordonnée pour le Venezuela ?
Non, parce que l'Europe, depuis le début, a d'ores et déjà dit qu'elle était solidaire pour apporter une aide humanitaire. Elle a toujours dit qu'elle était prête. Je crois que la position de l'Union européenne est tout à fait cohérente sur ce point. Maintenant, apporter une aide humanitaire, c'est en effet quelque chose qui doit être fait, car ce pays connaît une crise considérable. Vous savez qu'il n'y a plus de médicaments, on meurt dans les hôpitaux, et donc il y a une grande difficulté. Quant aux États-Unis, qui menacent d'envoyer des militaires, je crois que c'est une option qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas non plus très envisageable en fin de compte. Et donc, par conséquent, sur ce plan, je pense que l'Europe n'est pas à la traîne, mais elle ne souscrirait pas, je pense, à une intervention militaire. Mais sur le plan humanitaire, elle est tout à fait prête à être opérationnelle et envoyée là-bas.
Merci beaucoup, Patrick Martin-Grenier. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et auteur notamment de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Merci d'avoir été avec nous. Il est midi 22.